Seigneur Dieu, nous te disons grandement merci parce que tu nous as été favorable pendant cette semaine. Seigneur Dieu, nous te glorifions et nous élevons ton Saint-Nom parce que tu nous as offert, Seigneur Dieu, cette semaine pour que nous puissions ajouter à notre foi la connaissance sur les questions financières. À travers ces thèmes sur l'indépendance financière dans la marche avec toi. Je te bénis, Jésus, pour tous ceux-là qui ont eu le privilège d'être là au courant de la semaine. Et ceux-là qui ne l'ont pas eu, Seigneur Dieu, et qui sont là maintenant, Seigneur Dieu, j'ai prié qu'à travers cet enseignement qui vient clôturer ces séminaires, tu puisses nous parler. Laisse que nos cœurs sois prêt à recevoir ta parole. Seigneur Dieu, je prie que tout celui qui est ici puisse recevoir sa part de bénédiction que tu lui as préparée à travers cette parole. Je me recommande aussi entre tes mains, Seigneur Dieu, moi qui ne suis qu'un humble instrument, afin que tu puisses parler à travers moi. Pour que chacun de nous reçoive la bénédiction que tu lui as prévue à travers ces moments. Seigneur Dieu, nous voulons que ton Esprit Saint nous dirige pendant ces instants et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom s'éloignent de nous au nom puissant de Jésus. Merci Jésus parce que tu es avec nous dès maintenant jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un privilège que Dieu nous accorde d'être à la fin de cette semaine parce que ça a été une semaine très particulière, une semaine trop surchargée avec ses enseignements sur ces thèmes portant sur l'indépendance financière. Je bénis Dieu pour notre Église parce que j'ai eu beaucoup de témoignages. Je vais en partager un. Il y a un frère à la fin du service anglophone m'a dit qu'il se sent en train de voler très haut grâce à ses enseignements. Et j'ai prié Dieu que ceci soit aussi le cas pour vous. Sans beaucoup plus tarder, nous allons encore lire la parole de Dieu dans trois passages. Deux de ces passages, nous les avons déjà lus pendant l'introduction du dimanche passé et pendant la semaine. Nous sommes dans Genèse 1:31, que nous avons déjà lu, bien sûr, où nous voyons que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et Genèse 2:15, où Dieu nous a donné l'instruction de cultiver et de garder ce qu'il a mis en notre possession. Mais nous allons nous focaliser dans Ecclésiaste 11, verset 6. Et dans Ecclésiaste 11, verset 6, nous voyons ceci. De le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un ou l'autre sont également bons. Pendant cette semaine, nous avons eu le privilège de développer 6 sujets qui nous ont conduits à la conclusion que si Dieu nous donne la grâce d'avoir l'indépendance financière, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour tout ce qu'il a mis à côté de nous et sur notre passage, et surtout aussi pour que nous puissions être utiles pour le développement de son œuvre. Dans les premiers points, nous allons voir quelques fondements bibliques de l'indépendance financière. disons Genèse 2, 15, où Dieu nous a donné la mission de cultiver et de garder. Mais bien avant cela, Dieu avait déjà préparé toutes les conditions idéales pour que nous puissions bien vivre. Donc pour dire que Dieu a tout préparé pour que nous puissions vivre dans les meilleures conditions, pour que nous puissions avoir le bien-être et le mieux-être. Et aujourd'hui, les questions financières, nous ne pouvons pas dire que ça ne nous concerne pas parce que toute notre vie en dépend. Mais comme chrétiens, nous sommes appelés à nous engager dans cette marche vers l'indépendance financière tout en marchant dans ses voies. À travers le livre des Proverbes 6, 6 à 8, nous avons été défiés. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés de cette mission de cultiver et garder. Pourquoi? Parce que lorsque nous entrons dans les détails de chacun de nous, chacun d'entre nous a ses défis à relever. Même ceux-là que vous pensez qu'ils ont beaucoup de moyens, ils ont aussi leurs défis. Soit ils ont accumulé beaucoup de richesses, mais ils ont aussi un passif qui pèse sur eux. Donc ils ont des dettes à payer aussi. Alors à travers Proverbes 6, 6 à 8, nous avons appris la sagesse de la fourmi que pendant les bons moments, nous devons travailler dur pour amasser des provisions qui vont nous être utiles pendant les mauvais moments. Alors dans le deuxième point, nous avons vu comment marcher vers l'indépendance financière et le premier point, c'est que nous devons faire une auto-évaluation de notre situation financière actuelle et faire un nouveau départ en nous fixant une vision et des objectifs et aussi prendre le temps de prier pour cela. Nous sommes appelés tous à trouver ou développer une activité qui nous génère des revenus au-delà de notre travail. Même si vous êtes salarié, nous avons vu pendant la semaine que l'activité qui vous génère un salaire aujourd'hui, ça ne devait pas être pour vous une zone de confort dans laquelle vous voulez demeurer, mais prenez ça comme une opportunité que Dieu vous donne d'avoir et l'expérience et les capitaux pour développer une activité qui va vous permettre d'aller vers l'indépendance financière. Et nous avons surtout vu que le salaire est destiné à la consommation pour que nous puissions couvrir nos besoins à court terme. Nous sommes appelés à nous former en éducation financière et pratiquer cela. Nous avons aussi été appelés à nous libérer de des dettes, surtout les dettes personnelles, pas les dettes liées aux affaires, parce que ça c'est un autre point. Et nous avons dit que dans la mesure du possible, ne nous endettons que pour besoin d'investissement. Donc pour développer un projet que nous maîtrisons déjà. Ayons la culture budgétaire en maximisant l'épargne, diversifions nos sources de revenus, faisons une bonne comptabilité en payant correctement, afin de payer correctement nos dîmes, et soyons fidèles par rapport aux dîmes, en suivant ce que nous dit Malachie 3:10. Et enfin, par rapport à ce point, cherchons premièrement le royaume de Dieu et ces autres choses nous seront données. Nous avons par la suite vu quelques facteurs qui favorisent l'indépendance financière. Et dans Habakkuk 2:6, nous avons vu que nous sommes appelés à compter sur nos finances personnelles que de dépendre des finances provenant soit de l'endettement ou être dépendant d'autres personnes sur les plans financiers. Dans Proverbe 21:5, nous avons vu que les projets de l'homme assidu mènent vers l'abondance. Et nous avons appris beaucoup de leçons par rapport à ça. Et pour clôturer ce deuxième point, nous voulons revenir sur quelques facteurs qui nous empêchent d'être financièrement indépendants. Et chacun de nous est appelé à y porter attention pour ne plus tomber dans les pièges, notamment les croyances personnelles. Donc vous faites des croyances que la vie que vous menez, c'est votre destinée. Nous avons vu que la Bible nous a donné, il y a beaucoup de promesses dans la Bible
Et c'est à chacun de se les approprier. Et ne pas penser que c'est votre destinée d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Faible niveau de la foi, nous sommes appelés vraiment à nous exercer à plus de foi. Non, cette voie vers la recherche de l'indépendance financière. Il y a certaines cultures qui ne devraient pas nous influencer. Les contextes familiaux, nous devrions aussi travailler. La discipline personnelle, les manques de connaissances en éducation financière et la société de notre pays, ce sont des facteurs qui peuvent nous influencer. Mais ce que nous devons faire comme chrétiens, c'est de faire tout pour les surmonter et nous engager dans cette marche de l'indépendance financière. Au troisième jour, nous avons parlé du travail, de la culture de l'épargne et de la sagesse en matière d'endettement. Et trois passages bibliques nous ont guidés. Ecclésiaste 11:6, où nous voyons que les chrétiens devraient travailler dur au-delà des 8 heures normales. Et si je reviens sur Ecclésiaste 11:6, il est dit ceci, Ecclésiaste 11:6, « Dès le matin, sème ta sémence, dès le matin, et le soir ne laisse pas reposer ta main. » Ça veut dire que nous devons travailler durement, de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Nous réalisons souvent que nous nous comportons comme si nous étions déjà à l'aise. Lorsque je voyage d'une ville à l'autre, dans nos villes de la RDC, les gens ne sont pas pressés. Donc c'est comme si tout est normal. Mais lorsque vous traversez un peu les frontières, c'est par exemple en Nairobi, dans le centre-ville, vous voyez, les gens marchent vite. Les gens marchent vite. Et tout le monde est pressé. Parce qu'ils ont cette notion-là des objectifs, des targets à atteindre. Tant au niveau de la journée, au niveau hebdomadaire qu'au niveau mensuel. Alors nous devons vraiment nous exercer à travailler durement, parce que souvent ce n'est pas le cas. La plupart des fois, ceux qui sont salariés pensent que si les 8 heures de temps sont finies, le reste des temps c'est le repos. Mais nous avons vu que vous avez 24 heures et qu'à part les 8 heures que vous donnez à votre travail de routine, vous pouvez aussi créer 4 heures ou plus pour développer une activité. Et nous avons vu plusieurs options. Dans le même point, nous revenons sur la sagesse de la fourmi qui nous défie que nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que si les fourmis peuvent avoir la sagesse d'amasser pendant les bons moments des provisions, de travailler dur, et je vous invite, si vous n'avez pas encore expérimenté cela, d'aller sur Google chercher un documentaire sur comment les fourmis travaillent dur. Vous allez voir que les fourmis travaillent dur. Et que ça devait être un défi pour nous les humains, parce que la proportion entre la taille de la fourmi et nous, elle est vraiment d'un niveau très difficile même à calculer, ça serait un milliard de fois. Donc c'est vraiment un grand défi qui nous est lancé, et j'ai prié que Dieu nous aide à le surmonter. Et nous allons lire Exode 2:25 pour clôturer le troisième point. Exode 2:25. Nous lisons Exode 22-25, Exode 22-25, nous lisons ceci. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Alors nous avons vu que parmi nous, nous avons la grâce d'avoir ceux qui ont été bénis, mais aussi à côté, nous avons ceux qui sont en difficulté. Et à travers ces enseignements, Dieu veut nous inviter aussi, comme l'Église, d'être sensible aux problèmes de ceux que Dieu a placés à côté de nous. Surtout ceux qui ont eu l'opportunité de s'ouvrir à nous. Dieu nous invite d'être une bénédiction pour ces personnes-là. En usant des grâces à leur faveur, lorsque vous leur donnez un dépannage financier, n'est pas exigé. Les intérêts. Dans le quatrième point, nous avons vu quelques fondements bibliques sur l'entrepreneuriat. Et ici, la grande question pour vous, pour moi et pour tout le monde ici est de savoir, est-ce que tout le monde est appelé à pratiquer l'entrepreneuriat. C'est une question qui m'est toujours posée. Et dans le contexte où nous sommes maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que tout le monde ici est invité à pratiquer l'entrepreneuriat? À travers Genèse 2:15, la réponse elle est oui, parce que nous devons tous nous rassurer que nous sommes en train de réaliser une activité multiplicatrice. C'est vrai que Dieu vous a mis au service de quelqu'un. Vous êtes peut-être employé dans une entreprise, dans une organisation ou dans une institution étatique. Mais cela, souvent, c'est la routine. C'est dans la logistique, dans les finances ou dans l'administration. Vous allez réaliser que c'est devenu usuel et votre vie est devenue une routine. Mais à travers ces passages de Genèse 2:15, Dieu nous invite à être des agents de la multiplication. Et la photo qui accompagne ces points peuvent nous en illustrer. Vous voyez, ça, c'est un maïs qui a été planté. Et ensuite, vous voyez, ça produit combien. Et nous avons vu qu'une graine de maïs peut arriver à produire jusqu'à plus de 500 graines après 3 mois ou un peu plus selon le milieu et la saison. Et nous avons réalisé que Dieu ne vous demande pas de faire un miracle. C'est juste de planter. Et le reste, ça lui revient jusqu'à la récolte. Nous allons voir un autre exemple dans la Bible. C'est dans Genèse 30, 27 à 30. Et dans ce passage de Genèse 30, 27 à 30, c'est l'histoire de Jacob et son beau-père, entre guillemets, son patron qui? Laban. Vous savez l'histoire de Jacob? Jacob devrait épouser qui? Rachel. Et on lui a demandé de travailler pendant 7 ans, il a travaillé durement. Quand les 7 ans sont finis, on lui a donné qui? Léa. Et il devrait encore travailler pendant 7 ans pour avoir maintenant Rachel. Et quand il finit, si quand vous lisez tous ces livres-là, vous réalisez qu'il serait aussi payé pour ce travail qu'il faisait. Parce que à la fin, Jacob dit à Laban, il est maintenant temps pour moi d'aller et travailler pour moi. Et Laban dit, fixe toi-même le salaire que tu veux. Et je vais te les payer. Et je me dis, combien d'entre nous ont déjà eu l'occasion d'être dans une situation où vous voulez démissionner, on vous demande de fixer le salaire que vous voulez. Des fois, on demande d'ajouter X montant ou de doubler. Mais ici, Jacob a l'opportunité de fixer ce qu'il veut. C'est dans Genèse 30, 27 à 30. Je vais lire ça pour que nous soyons dans le contexte. Laban lui dit, « Puis-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je le donnerai. » Mais la surprise est que la réponse de Jacob, c'est que non, paye-moi ce que vous me devez pour ce que j'ai déjà fait. Et pour le reste, je vais aller travailler pour moi. Là, nous trouvons dans la Bible l'exemple de quelqu'un qui s'est décidé après un temps, après 14 ans de carrière, si on peut le dire, il se décide d'aller vers l'entrepreneuriat. Et les conséquences, les résultats, nous les voyons dans Genèse 30, 43. Nous lisons. Cet homme, Jacob, devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et lorsque nous parlons des chameaux et des ânes, ça serait comparé aujourd'hui à un charroi automobile, un parc automobile pour Jacob. Quelqu'un qui a chez lui des servants et des servantes. Donc, vous imaginez, donc, c'est quelqu'un qui mène une vie de notable ou de riche, tel que nous pouvons nous l'imaginer dans les contextes d'aujourd'hui. Au cinquième point, nous avons vu quelques étapes et principes à suivre pour réussir dans l'entrepreneuriat. C'est là pour ceux qui se sont déjà décidés de s'y lancer. Et si votre question est de savoir comment je vais m'y lancer, nous avions donné beaucoup d'options. Il y a plusieurs options. Regardez autour de vous qu'est-ce qui manque et mettez-vous à les fournir, ça sera pour vous l'occasion de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Nous manquons presque de tout. Dans notre contexte, la RDC, nous importons presque tout. Et c'est une opportunité pour vous de vous lancer dans une activité, produire les œufs, l'agriculture, les services et consorts. Maintenant, si vous êtes déjà engagé à vous y lancer, voilà quelques étapes et principes à suivre, tout en nous alignant dans les contextes publics, dans une approche de marcher dans la voie du Seigneur. Premièrement, nous devons vaincre la peur. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit, moi j'ai des belles idées, mais j'ai toujours eu peur de m'engager et de commencer. Parce que je m'imagine les conséquences qui peuvent en suivre si ça ne marche pas. Et dans Matthieu 25, 25, nous voyons le troisième serviteur dans la parabole des talents, lui qui a reçu un talent et qui est allé l'enterrer parce qu'il a eu peur. Combien d'entre nous ont eu des belles idées, mais ne les ont jamais matérialisées parce que ils ont peur. Et nous avons vu pendant la semaine que nos cimetières sont des grandes bibliothèques parce qu'elles sont pleines d'idées. Si vous allez à Macao, à Kanyamwanga, beaucoup ont été enterrés avec des idées non exécutées. Alors que Dieu nous fasse grâce, si nous avons une idée de faire ceci ou cela, que nous puissions ne pas avoir la peur. Parce que la peur, c'est l'ennemi de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, nous devons prendre le temps d'analyser et planifier avant de nous y lancer. Et dans Luc 14, 28, il est dit, si vous voulez bâtir une tour, vous devez prendre le temps d'évaluer. Est-ce que vous avez les moyens qu'il faut pour aller jusqu'au bout? On a vu qu'ils ont commencé un grand chantier et ensuite ça s'est démoli parce qu'il n'a pas eu les moyens pour le finir. Donc nous sommes invités à ne pas nous lancer dans une activité en désordre. Vous voulez commencer un poulailler, commencez avec deux poules. Deux poules et un coq, ça va se multiplier. Vous voulez commencer l'élevage de lapins, commencez avec deux géniteurs. Et vous allez apprendre l'expérience et ça va se développer dans les temps. Troisième point et principe pour bien réussir, nous devons racheter les temps en évitant aussi la précipitation. Racheter les temps, c'est quoi? Les temps, c'est la ressource que nous avions réussi équitablement. Racheter les temps de deux points. Premièrement, c'est la décision de vous lancer. Vous avez été, Dieu vous a vraiment convaincu que vous devez faire cela. Mais certains vont dire non, je ferai après, peut-être l'année prochaine. Si vous avez été inspiré que vous voulez faire l'élevage, le demain allez au marché des Virunga acheter deux géniteurs et commencez déjà avec vos moyens de bord. C'est très capital. Rachetons aussi le temps en capitalisant des opportunités. La vie d'un entrepreneur demande beaucoup plus de souplesse. Et nous qui sommes dans la prestation des services, lorsque nous voyons une offre, nous devons prendre des temps, des fois des nuits blanches pour l'exploiter. Des fois, ce sont des documents de 100 pages que vous devez exploiter et arriver à produire une offre qui répond à la demande. Et je sais qu'il y a plusieurs ici qui s'exercent souvent à cela. Donc, la vie d'un entrepreneur demande beaucoup de discipline dans la gestion du temps. Quatrième principe, étape, démarrer toujours en petit format. Dans Luc 16, 10, il nous a dit ceci, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes
chose.
Il est difficile de commencer par un grand projet parce que il y a plein de risques que vous puissiez soit perdre vos moyens, soit être déséquilibré parce que vous n'avez pas encore assez d'expérience. Alors, il nous est recommandé de démarrer toujours en petit format. Vous voulez être la première ferme avicole, donc qui produit des poulets ou des œufs en RDC. Commencez par deux poules, un coq, et ça va se développer avec le temps. Cinquième principe et étape pour bien réussir dans votre projet d'entreprise, nous sommes appelés à bien structurer et organiser nos projets et recourir aux nouvelles technologies de l'information. Nous avons vu pendant la semaine qu'il y a certains d'entre nous qui sont dans les activités manuelles qui, des fois, arrivent à dérailler pour le non-respect des rendez-vous de livraison. Pourquoi? Parce qu'il y a manque d'organisation. Il n'y a pas de carnet de commandes. Et nous avons vu que cela, c'est aussi une opportunité pour nos jeunes qui sont doués dans les nouvelles technologies de l'information, notamment l'informatique, pour développer des applications de gestion et d'autres outils de gestion qui vous permettront d'être efficaces dans la gestion de vos commandes. Ceux qui font la couture, la menuiserie et d'autres services qui demandent des livraisons liées au temps sont invités à cela. Sixième point, principe, étape, c'est faire entourer des bonnes personnes, collaborateurs, conseillers et surtout veiller à ce que nous puissions bien traiter les personnes qui sont à notre disposition. Et nous avons vu ceci, que plus vous traitez bien les personnes qui sont à votre disposition, plus ils vont prier pour vous et vous allez amasser des bénédictions. Jacques 5,4 dit ceci, « Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » La Bible dit que Dieu est très sensible aux cris de faibles. Donc ces personnes-là que Dieu a mis à votre disposition, nous sommes invités à avoir vraiment la sagesse de bien calculer par ce que nous gagnons, que eux aussi se sentent soulagés et qu'ils aient le temps de nous bénir par leurs prières, en priant pour que Dieu bénisse leur activité, que ça prospère davantage parce que leur futur a dépend aussi. Septième étape et principe, nous sommes appelés à pratiquer la bonne gestion et être bon modèle pour nos équipes. Et huitième point et principe, nous avons plusieurs passages bibliques dans les proverbes qui nous invite à user en priorité de quoi? De la recherche de quoi? De la justice. Et lorsque nous lisons Proverbe 13, 11, nous voyons ceci, « La richesse mal accuse diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Proverbe 15, 16, nous lisons ceci, Proverbe 15, 16, nous lisons ceci, mieux vaut paix avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Ensuite, Proverbe 16, 8, nous lisons ceci. Mieux vaut paix avec la justice que des grands revenus avec l'injustice. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que ceci soit une réalité dans notre vie. Que nous ne puissions pas mettre en avant les gains financiers, mais tout en nous inscrivons dans la démarche vers l'indépendance financière, que nous puissions aussi veiller à être justes et pratiquer la justice par rapport à la façon dont nous traitons les personnes que Dieu a mises autour de nous et à notre passage. Neuvième point principe, bien calculer vos bénéfices et payer correctement la dîme. Nous avons vu que nous avons beaucoup failli en ne payant pas bien la dîme parce que nous ne calculons pas bien. Or, la dîme, c'est la clé des bénédictions que Dieu a mis à notre disposition. Et pour clôturer ce séminaire, et Tant donné que nous allons nous engager dans cette démarche vers l'indépendance financière, il y a un autre défi qui est au rendez-vous. C'est le défi de la gestion de la prospérité. Nous avons vu que plusieurs ont été bénis mais n'ont pas su gérer l'après. Ils nous ont posé la question ici, combien d'entre nous vont rester la même personne lorsque Dieu vous fait revenu de 1 million de dollars l'année? Donc vous calculez du 1er au 31 décembre, vous avez gagné combien? 1 million de dollars. J'ai posé la question aux choristes, combien vont continuer à porter cette robe et venir chanter? Combien de diacres vont continuer à venir faire la diaconie? Combien d'anciens de l'église? Et moi-même, est-ce que je viendrai encore ici? C'est un défi qui nous est tous lancé. Nous avons vu plusieurs lorsque ils ont atteint ces stades-là, ils ont intégré d'autres clubs. Et pendant que nous sommes ici, ils vont au club de tennis, club de golf. C'est qu'ils sont dans les villes où il y a le golf, parce que ce sont des activités de ces gens-là qui gagnent des millions et des milliards. Alors, nous avons quelques promesses que nous sommes priés de ne pas rater. Ce sont des promesses réelles. Et nous nous sommes dit pendant la semaine que ces promesses sont comme des clés et c'est à vous de les approprier et de les utiliser efficacement. Deutéronome 28, 12. Dieu nous promet la prospérité si nous restons attachés à lui. Et c'est une promesse réelle. Matthieu 6, 13. Préoccupons-nous d'abord de la recherche du royaume de Dieu et toutes ces autres choses nous seront données. C'est quoi toutes ces autres choses? C'est tout ce à quoi nous aspirons, ce que nous voulons. Parce que tout le monde veut vivre bien, non? Voilà. Je suivais une petite vidéo où c'est lui qui avait un jet privé, était entré dans un jet privé plus élevé que celui-là, que celui qu'il a. Et en dessous de lui, il y avait celui qui enviait avoir une voiture. Celui qui avait la voiture aussi enviait plus. Celui qui avait la moto avait la voiture. Celui qui avait le vélo enviait la moto. Donc c'est pour dire que c'est comme si nous voulons tous envier à avoir un niveau de bien-être plus élevé. Et si nous voulons y arriver, les promesses de Dieu sont fermes et elles sont nôtres. Dans Matthieu 5, 5 à 9, nous voyons que quel que soit le degré de notre prospérité, nous sommes invités à être humbles, avoir soif et faim de la justice, être des acteurs de la justice, surtout être miséricordieux. Être miséricordieux, c'est quoi? Nous avons toujours dit que Dieu est miséricordieux. Mais dans ces passages, Dieu nous invite aussi d'être miséricordieux. Lorsque Dieu vous bénit, vous donne des millions, ces millions, ce n'est pas seulement pour vous. C'est pour que certaines personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité, qui sont à côté de vous, puissent aussi en trouver un soulagement. C'est quand même délicat lorsqu'on trouve des chrétiens en procès au tribunal, deux chrétiens qui partagent la même foi en procès au tribunal pour une question pécuniaire. Au minimum, on allait faire l'arbitrage. Et je pense que ça serait la voie indiquée pour les chrétiens. Un arbitrage, et nous avons beaucoup de sages qui peuvent les faciliter. Donc, si vous avez prêté à quelqu'un et qu'il est tombé en difficulté, et que vous réalisez qu'il est en difficulté, Dieu nous invite à user des miséricordes. Surtout si ça ne rembourse pas, ça ne réduit rien à notre indépendance financière. Ayons un cœur pur et soyons ceux qui procurent la paix. Josué 1:7, ne nous éloignons pas, ne nous détournons pas de la voie de l'Éternel en agissant fidèlement selon sa parole, et la promesse est que nous réussirons dans tout ce que nous entreprendrons. C'est une promesse ferme. Cinquième étape, comment nous devons gérer la prospérité, nous faire entourer de bonnes personnes, des personnes qui craignent Dieu. Sixième étape, ne pas oublier d'où nous sommes venus. Nous avons vu que plusieurs personnes veulent falsifier leur histoire. Lorsque vous devenez à un certain niveau, vous voulez changer même votre histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Parce qu'en falsifiant notre histoire, nous pouvons facilement nous détourner de la voie du
du Seigneur.
Si vous rappelez-vous que vous avez été diacre et que votre ministère est toujours là, même quand vous serez millionnaire ou milliardaire. Avant de terminer, Malachie 3:10, Dieu nous invite de lui mettre en épreuve. Et ça, c'est un challenge. Un challenge, c'est quoi? On vous dit, faites ceci, vous aurez. Je me souviens en 2002, quand j'étais dans la télécommunication, j'avais des publiphones et Vodacom donnait des challenges. Le challenge, c'était quoi? Si vous vendiez des minutes jusqu'à $300, les 30e jour du mois, automatiquement, vous étiez crédité des bonus de $100. C'était un challenge. Et moi, j'avais fait baisser les prix de l'appel par minute de façon à réussir les challenges. Et pendant beaucoup de mois, j'ai réussi les challenges. Et Vodacom m'a donné autant de cabines, j'en avais eu. J'ai à multiplier dans la ville. Et j'étais encore étudiant en G1. Mais beaucoup ne comprenaient pas. En fait, le challenge, c'est quoi? Lorsqu'on vous dit, faites ceci, vous aurez ceci. Mais ici, c'est Dieu qui nous donne le challenge. Il dit, mettez-moi en épreuve. Et nous avons dit que Dieu, lorsqu'il vous bénit, il donne d'abord 1000. Il voit comment vous allez vous équilibrer. Si vous êtes équilibré, vous maintenez votre standing, vous gardez votre attachement à la foi chrétienne et que vous êtes fidèle à vos engagements par rapport à lui, il vous a amené à 2000. Il va encore observer 3000 et vous arrivez jusqu'à 1 million, à 1 milliard. Mais pourquoi nous ne croyons pas? On peut avoir un chrétien qui gagne 1 milliard et qui va dire, je vais offrir 100 millions pour construire quoi? Un temple comme Salomon l'a fait. Pourquoi nous n'y croyons pas? Je sais que c'est possible et j'ai prié que Dieu nous accorde des bien-aimés qui vont y arriver. C'est juste question de nous approprier ces promesses et de nous exercer face à ces challenges. Pour clôturer, comptons les bénédictions dont nous avons été bénéficiaires. En fait, pourquoi nous chantons « Count your blessings », comptez les bénédictions. C'est pour dire que, ayant une attitude de reconnaissance, les bénédictions que Dieu m'a données, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour que quelqu'un qui est autour de moi puisse aussi avoir un soulagement. Je me sens quand même ridicule lorsque une grande paroisse comme celle-ci, les pasteurs font autant d'annonces pour une maison résidentielle. Et pourtant, nous habitons tous des belles maisons. Je souhaiterais même qu'aujourd'hui, il y ait 50 hommes d'affaires qui vont donner chacun $100. Et on aura combien? 5 000. J'ai pris vraiment qu'à la fin de ce culte, qu'il y ait 50 hommes d'affaires. Est-ce qu'on peut avoir ces papiers-là? Que 50 personnes prennent des papiers, vous allez amener $100 ici les mains crédits. Je serai le premier. Est-ce que les diacres peuvent donner ces papiers-là? 50 personnes, et le dimanche prochain, les diacres vont dire, nous avons compté combien? 5 000. Il y a plus de 50 personnes ici qui peuvent avoir $100 facilement. Je demanderai aux diacres de donner ces papiers-là. Je n'ai pas préparé, mais c'est Dieu qui me l'inspire. Et je pense que le dimanche prochain, pasteur, vous allez annoncer que 50 personnes ont amené chacun combien? Puis quand nous allons dans les supermarchés, nous voyons là-bas, non? Combien nous payons devant les caisses des supermarchés? Et les pasteurs doivent crier pour avoir combien? $5 000, c'est honteux. Pasteur, je suis le premier. Et je veux qu'il y ait 49 autres. Et je suis en train de voir plusieurs. Alors, je prie le bon Dieu que ceci soit un témoignage le dimanche prochain. Que pendant ce culte, on a réuni combien? 5 000, 50 hommes d'affaires. On a 50 hommes d'affaires ici. Qui vont donner chacun combien? $100. Et nous avons aussi des fonctionnaires. Dans votre compte, il y a combien? Juste $100 pour le temple, pour une maison pastorale. Et les pasteurs doivent faire des communiqués. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la grâce de pratiquer cette parole, de nous approprier toutes ces promesses, et que ces promesses soient une réalité dans notre vie. Cette parole sera une référence pour les mondes. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Amen.